rapide. Les volumes d'échange ont été très faibles aujourd'hui encore sur le CAC 40, à trois jours de la publication aux États-Unis des derniers chiffres de l'inflation. Plus exactement, jeudi, le département du travail publiera l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai. Les craintes d'inflation freinent la prise de risque en bourse, mais la reprise économique, en l'absence d'une vraie preuve de surchauffe, reste quand même une thématique porteuse. C'est vrai notamment pour le secteur de l'automobile. D'ailleurs, Michelin a gagné jusqu'à plus de 2%, séance qui lui a permis d'atteindre un nouveau record en bourse. C'était Marjorie Ancelot d'Investir pour RFI.
RFI, 18h et bientôt 10 minutes ici à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, votre quotidienne consacrée aux actualités culturelles et locales sur Radio G. On est lundi et le lundi, on a l'habitude d'entendre la voix de José. Salut José.
Salut Annie.
On t'entend un lundi sur deux avec Cacahuètes et compagnie, la chronique consacrée à la nutrition.
Exactement.
Tu as une invitée mystère aujourd'hui.
Oui.
Nous ne pouvons donc pas en dire plus. On la découvrira en deuxième partie d'émission. Ce sera très gourmand. Ça, c'est sûr. C'est tout ce que je peux dire.
Oui, c'est ça.
Bon, bah, hâte de découvrir cet invité. Avant cela, nous aurons un autre invité dont je vous dévoile l'identité. Il s'agit de Laurent Noël. Il est artiste, peintre, dessinateur et il vous ouvre son atelier en ce moment et jusqu'au 20 juin. C'est à Saint-Mathurin-sur-Loire. Les visites sont gratuites. Et si vous avez des envies de découvrir son travail en cours, des choses faites par le passé, tout se passe sur son site laurent-noël.com de mémoire. On va le réentendre puisqu'il était passé dans cette émission il y a quelques temps. Le proverbe de ce soir est très aquatique. Il s'agit des petits ruisseaux font les grandes rivières. Tu es d'accord, José ?
Oui, tout à fait.
On peut pas dire l'inverse.
Non.
On va ouvrir avec un morceau de musique. Il est de Alice et moi, c'est le nom de l'artiste, et c'est Maman m'a dit.
Sans rien faire, sans regarder derrière. Et j'ai vécu ma vie comme un documentaire. J'ai filmé mon ennui jour et nuit, j'ai su faire comme si tout allait bien, mais en vrai j'ai souffert. Et soudain un matin ça me semblait plus clair. Maman m'a dit, maman, maman m'a dit. 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 Que je ne pouvais rien faire. Ça m'a mis dans la bouche un arrière-coup de terre. J'ai grandi sur la touche, mais je cherchais dans l'air de l'extraordinaire, dans la moindre poussière. Maman m'avait bien dit ce que les hommes pouvaient faire. Dans ce monde face aux filles, face aux femmes, face aux mères. Quand j'ai vécu l'enfer, même l'enfer m'a déçu. J'ai pas les pieds sur terre, mais je suis revenue. Maman m'a dit, maman, maman m'a dit. Maman m'a dit, maman, maman m'a dit. Maman m'a dit, maman, maman m'a dit. Maman m'a dit, 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 maman m'a dit.
vous l'ai dit, on retrouve Laurent Noël ce soir en... pas en direct, en rediffusion, je suis honnête avec vous. Il était venu dans cette émission en avril 2019. Et si on l'entend à nouveau, c'est qu'il vous ouvre son atelier, si vous le souhaitez. C'est gratuit, c'est tous les jours, sauf le mercredi et le jeudi. Laissez-moi reprendre mes notes. Exactement. Et c'est jusqu'au 20 juin. Tout se passe en ligne sur le site laurent-noël.com. Et le point de départ de ce projet, c'est de se dire, bon, on est tous et toutes privés d'exposition depuis plus d'un an. Les travaux ne tiennent plus en place. Ils n'en peuvent plus d'être tournés vers le mur. Alors, ils vous accueillent là où ils ont été conçus, dans l'atelier. Vous verrez des choses très récentes, des choses beaucoup plus anciennes si vous le souhaitez. Et on va réentendre Laurent Noël. Je disais donc à ce moment-là qu'il était artiste, mais pas seulement peintre.
Peut-être pas que peintre, enfin, artiste, c'est toujours difficile de s'autoproclamer artiste. Bon, disons que je respire avec la peinture, avec l'écriture, avec la gravure, avec tous ces procédés, je ne vis que comme ça, que par ça, qu'à travers ça.
Mais d'abord, je voulais vous présenter un petit peu à nos auditeurs, nos auditrices, savoir un petit peu quel est votre univers. On a compris qu'on parlait plus de choses graphiques, visuelles en tout cas, oui. Dans un premier temps. Vous travaillez avec différentes matières, des encres, des peintures, avec du texte aussi. Est-ce que vous pourriez décrire ou mettre quelques mots sur ce que vous faites ?
Ça, c'est extrêmement difficile. Parce
même si
que,
je sais, effectivement, c'est très difficile.
C'est un peu paradoxal, puisque décrire quelque chose qu'on fait plastiquement, si on le fait plastiquement, c'est parce que, justement, c'est difficile à exprimer autrement que plastiquement. Ceci dit, il y a, dans mon travail, en permanence, en fait, je mets dans mon travail ce que j'appelle ma vue quotidienne, c'est-à-dire tous les éléments qui tournent autour de moi, visuellement, les événements, enfin tout ce qui fait ma vie finalement arrive dans la toile, arrive dans la peinture ou dans la gravure, enfin dans l'œuvre en question ou dans le texte. Voilà. Et tout ça se mélange pour en faire quelque chose de fini, de composé, de construit. En l'occurrence, là, pour ces temps-ci, il s'agit d'un livre d'artiste, c'est-à-dire un objet un petit peu complet, mais ça peut être une simple peinture, qui n'est pas simple du tout d'ailleurs, enfin une peinture, ça peut être un dessin, ça peut être une gravure, ou un texte. Voilà.
Ou un texte. Et justement, le texte, donc, enfin, c'est vrai, ça peut être des toiles, vous disiez des dessins, mais il y a aussi vraiment l'importance de l'écriture. Je ne sais pas si la calligraphie peut être un terme qui vous parle ou non, mais vous mélangez un petit peu ces deux pratiques-là, entre guillemets, si on a envie de les distinguer d'ailleurs.
Oui, alors en fait, il y a une pratique d'écriture qui se divise en deux, qui a deux branches, c'est-à-dire une branche plastique, la calligraphie, qui entre dans la peinture, qui s'associe aux images, à la couleur. Et puis, il y a l'écriture lisible, parce que ma calligraphie n'est pas lisible.
On voit que ce sont des formes, des lettres, voilà. Des tracés.
Ce sont quand même des textes, des véritables textes qui ont un vrai sens.
Mais vous écrivez très mal.
Alors, c'est pas que j'écris très... Peut-être j'écris très mal, c'est possible. Mais en fait, j'écris pour qu'on ne comprenne pas ou simplement pour qu'on suppose. La calligraphie laisse supposer ce que je peux éventuellement dire. Il faut que la peinture reste ouverte. Donc ça, c'est quand je ne veux pas qu'on comprenne, quand je veux qu'on suppose. Quand je veux qu'on suppose moins, j'écris de façon plus lisible. À ce moment-là, j'utilise un ordinateur, enfin, où j'imprime, parce que c'est plus compréhensible. Et là, j'ai des choses à faire passer par le texte, moins par l'image. Mmh. Voilà. Et ce livre d'artiste concilie les deux ou associe les deux. Puisqu'il y a à la fois de la calligraphie, du graphisme et du texte lisible.
Et peut-être pour terminer de présenter un peu votre univers, est-ce qu'il y a des thématiques, vous nous parliez de vue quotidienne, est-ce que malgré tout il y a des thématiques qui reviennent, des choses qui sont particulièrement...
Oui, il y a souvent des thématiques qui reviennent parce que mon quotidien est le quotidien de tout le monde finalement.
Puis on a ses sensibilités aussi.
Aussi, oui, donc ça fait un fil conducteur dont je ne me rends pas forcément compte dans l'immédiat, mais avec du recul, oui, je me rends compte qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement, des façons de procéder, là, à propos des jonchés, il s'agit de l'arbre, mais pas uniquement l'arbre. Enfin, c'est l'arbre et les dépôts de l'arbre que j'associe aux dépôts du peintre dans son atelier, c'est-à-dire tout ce que le peintre laisse tomber, des essais, des couleurs, des éclaboussures, des échecs. Enfin, tout ça arrive au sol, finalement, mais ça nourrit la toile. Et tout ce qui tombe au pied de l'arbre nourrit l'arbre. Voilà. Bon, ça, c'est un sujet qui revient souvent, l'idée du dépôt, La nouvelle série que je travaille actuellement, après celle-ci, après Les Jonchés, parle aussi des dépôts, mais cette fois des dépôts de la mer, les dépôts, les algues, les dépôts de goémons, etc., sur le jusant. Effectivement, il y a des thèmes récurrents, oui.
Et est-ce qu'on peut dire que vous travaillez par série ? Ou enfin vraiment par thématique, vous englobez un petit peu ces démarches-là ?
Oui, je travaille beaucoup par série. Alors, c'est pas du tout c'est pas réfléchi, c'est un besoin, une nécessité, ça se fait comme ça. J'ai besoin d'explorer un sujet, de le creuser encore, d'où les séries. Alors, des séries, mais je tiens toujours à ce qu'une œuvre, une toile ou une peinture, enfin, se tienne seule. C'est-à-dire qu'extraite de la série, elle doit pouvoir se tenir. Sinon, ça n'a pas de sens, de mon point de vue, en tout cas. Mmh. Et les séries, c'est pour creuser un sujet, c'est pour creuser des techniques, enfin, c'est pour réfléchir, c'est pour avancer. Mais chaque œuvre doit être seule aussi.
Et est-ce que vous estimez à un moment qu'une série peut être terminée ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, de clôturer un peu ça ?
Ben, c'est possible, puis finalement, je me rends compte que c'est toujours ouvert. Mais c'est comme une peinture seule. Une peinture seule n'est jamais véritablement finie. On arrête, on abandonne quelque chose, mais elle pourrait être reprise. Pour une série, c'est pareil. Je pense qu'une série, on la lâche à un moment donné parce qu'on pense avoir atteint ce qu'on pouvait faire, atteint ses propres limites. Mais puisqu'il y a des sujets récurrents, finalement, les séries sont revues d'une autre manière pour peut-être donner lieu à d'autres séries après.
Donc, travail d'artiste, travail sans fin.
Sans fin.
Et c'est très bien.
Ah mais oui, c'est une respiration, c'est sans fin.
Donc là, justement, vous êtes sur un projet, vous nous en parliez un petit peu, l'Atelier des Jonchés, pour lequel vous réalisez un livre d'artiste, un Leporello. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors, on parlait un petit peu de l'analogie déjà entre le cycle de la nature, le cycle de l'arbre et le cycle de la création, le cycle du peintre aussi. Vous pouvez peut-être... comment est-ce que vous avez lié ces deux choses-là ?
Mais alors justement, le texte qui est contenu dans ce Leporello, dans ce livre accordéon, le texte parle de la genèse de l'idée en fait. C'est-à-dire qu'au départ, il existait une envie d'aller représenter ces jonchées d'arbres à l'automne, ce qui est des choses magnifiques. Le tas de feuilles au pied de l'arbre que je trouvais très coloré, magnifique, etc. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose là. Mais j'ai plusieurs années comme ça, j'ai fait des projets, des croquis, des recherches, et sans rien trouver. Et à un moment, je ne sais pas de quelle manière c'est venu, j'ai fait l'analogie, l'association avec justement les dépôts du peintre dans l'atelier. Et alors là, ça a été un déclic, et ça a généré une série que j'ai appelée Jonchée. Et à la fin, peut-être justement, ce livre clôture la série, pour répondre à la question d'avant. C'est-à-dire que c'est peut-être une manière de la terminer, cette série, parce qu'elle revisite le parcours de l'idée, justement, depuis sa naissance, et puis tout le travail à l'atelier. Et donc, cette alternance, tout arrive dans l'objet, finalement. C'est-à-dire l'écriture, ce que je disais tout à l'heure, l'écriture non lisible, l'écriture lisible, et puis le travail. La relation du travail.
Et dans les Jonchées, il y a l'idée que ce qui tombe aussi devient terreau, enfin devient utile pour la suite. Donc là, on pense au travail d'atelier que vous devez mener avec peut-être des brouillons, des feuilles qui tombent.
C'est ça, ouais.
Comment est-ce que vous avez intégré cette partie étape, brouillon ou rejet peut-être de la pratique artistique dans ce travail-là ?
C'est-à-dire dans le Leporello ?
Dans toute la série des Jonchées, dans le Leporello et peut-être même aussi dans ses recherches en général.
Ben dans la série des Jonchées, il y a certaines toiles qui sont à la fois verticales et horizontales. C'est-à-dire qu'il y a au pied de la toile des dépôts, l'organisation d'un certain nombre de déchets, si on veut appeler ça comme ça. Ce sont des déchets, mais des déchets recyclés, si vous voulez, et qui montrent justement ce qui a servi. Donc ce sont des croquis, des bouts de papier déchiré, des choses comme ça que j'assemble et qui donnent des sortes de tapis qui représentent un petit peu le sol de l'atelier qui est indescriptible. Donc les toiles sont souvent montrées comme ça. Enfin, certaines toiles sont montrées comme ça. C'est une espèce d'installation entre le vertical et l'horizontal.
Et c'était la première fois que vous travailliez avec ces rebuts, enfin ces brouillons de création ?
Non, justement, et c'est là où je me rends compte qu'il y a des choses récurrentes, c'est-à-dire que j'avais fait une série autour du poète Ponge, Francis Ponge, il y a quelques années, et j'avais inséré des brouillons, c'est-à-dire des études, des pages de carnet, à l'intérieur des toiles. et ça faisait la matière de la toile, une des matières de la toile, comme Ponge faisait pour ses textes dans lesquels ses brouillons, ses redites, etc., faisaient partie du texte lui-même, fini.
Donc le processus aussi dans...
À l'intérieur de l'œuvre. C'est ça.
Et alors là, on a pour clôturer, on le disait un petit peu, cette recherche, une édition, vraiment un livre d'artiste, donc Leporello, on a dit ce terme, mais qui doit être sans doute assez nouveau pour certains auditeurs et auditrices. Donc c'est un livre qu'on peut déployer comme un accordéon.
C'est ça.
Et vous me disiez tout à l'heure, il va faire jusqu'à 3 mètres de long.
Lui, si on le déplie complètement, il fait 3 mètres de long, 2,90 mètres très exactement. Oui.
Et c'est un objet qu'on peut manipuler, donc on peut voir déployer, on peut plier les pages entre elles, on peut le bousculer un petit peu.
Oui, il y a des astuces, il y a des jeux à faire avec. D'abord, il est perpétuel, c'est-à-dire que le recto et le verso s'enchaînent naturellement, et on peut revenir au début. Et puis, par des systèmes de pliage, on peut s'amuser à assembler les images toutes seules. Et quand on assemble chaque image, puisque c'est une alternance d'images et de textes, quand on assemble les images ensemble, ça donne une seule image qui est un arbre avec sa jonchée. Et donc qui est une référence à la série initiale, finalement.
Et ça, il y a des gravures dans, dans cette édition, avec que vous aquarellez aussi, que vous colorez la main.
Oui, c'est ça. Donc il y a, c'est un livre, bon, il n'y a que 30 exemplaires de ce livre uniquement. Enfin, 35, mais j'en garde 5, et il y en a 30 proposés au public.
À vagabonder dans le monde.
À vagabonder, j'espère. Mm-hmm. Mais chaque exemplaire a son unicité, si vous voulez, parce que chaque exemplaire est aquarellé à la main, en partie, certaines gravures sont aquarellées à la main. Il y a une petite gravure au dos que j'ai imprimée moi-même, qui fait pièce de titre. Et puis c'est dans un coffret qu'une relieuse est en train de terminer pour moi, pour cet ouvrage, qui est fait aussi de façon très artisanale. Mmh. Donc c'est un objet à la fois unique et multiple, si on veut.
Et comment vous êtes passé de ces formats de toiles qui sont peut-être plus habituels pour vous, enfin en tout cas quand on pense artiste peintre, on pense toile, tableau, à l'édition? Il y a l'édition dans Leporello.
Bah ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est sans doute mon rapport avec l'écriture. J'ai cherché sans doute un moyen d'associer l'écriture et l'image dans un seul objet. Et un objet un peu ouvert, c'est-à-dire j'espère sans limite en tout cas, enfin qu'il puisse être repris d'une façon différente. Un objet en plus tactile, parce que c'est un papier... riche, si vous voulez, c'est un papier noble, avec une certaine épaisseur, une certaine consistance, et tout ça, c'est donné dans l'objet.
Oui, c'est un objet pour lui-même, c'est pas simplement un catalogue.
Non, surtout pas. Enfin, j'espère que j'ai réussi ça, mais
non,
ça après, c'est
je le vois là dans le coin de mon œil, et ça n'est pas un catalogue.
Non, pas du tout.
Peut-être on a encore un petit peu de temps, et. Moi, je me suis demandé aussi, on a parlé avec les jonchés du cycle de la vie, de la création, du travail d'artiste aussi, quelque part. Comment est-ce qu'elles sont vos journées, vous, au quotidien, dans votre travail de création ?
Je suis un fonctionnaire de la peinture. Mes journées, elles sont... Travailler seul, ça oblige à une certaine discipline. Donc, mes journées sont minutées autant que possible, entre le quotidien et la peinture. Enfin, il travaille à l'atelier, quoi. Mon atelier pas tout à fait à la maison. Enfin, la maison et l'atelier est une petite maison à part. Donc, je vais au travail quand même. Il faut que je sorte pour rentrer dans l'atelier. C'est un lieu à part. Mais j'essaye de me tenir à des horaires. Et même si l'idée est pas forcément au mur, ou si j'ai un besoin, c'est une nécessité d'aller à l'atelier parce qu'il s'y passe forcément quelque chose. Même si c'est un échec, mais il faut y aller quand même.
Comme il faut aller au travail.
Ah oui, c'est indispensable.
Et justement, ça fait une trentaine d'années que vous êtes artiste. Est-ce que parfois il y a des moments de découragement ou des moments où on se dit pourquoi je fais ça ?
Alors, pourquoi je fais ça ? Je me pose jamais la question. Je le fais. Bon. Par contre, des moments de découragement, il y en a beaucoup plus que des moments de Ah oui, c'est pas forcément un métier quelque chose de très facile et très... Mais c'est ce qui est très bizarre, justement, c'est que c'est assez difficile, c'est souvent décourageant, mais ça reste indispensable. Ça, je n'arrive pas à l'expliquer.
Et vous donnez aussi des cours de peinture, de création. Et j'ai vu que vous aviez été élève, mais très rapidement, aux Beaux-Arts d'Angers, puisqu'au bout de 3 mois, vous êtes partie de l'école.
Oui.
Félicitations. Mais justement, alors vous êtes parti de cette école-là et puis aujourd'hui vous vous retrouvez à la place de l'enseignant entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut pour bien transmettre la création ou la pratique de la peinture par exemple?
Alors ça, il faudrait demander à mes élèves, mais transmettre, c'est bon, il faut déjà avoir une certaine légitimité. Ça, c'est indispensable. Et donc, je pense que ça aussi, c'est les élèves qui le diraient, mais la légitimité d'un travail, c'est-à-dire pouvoir montrer aux autres ce que l'on fait, et de là, peut-être, c'est plus facile d'enseigner. Ceci dit, ça ne donne pas forcément la pédagogie, ça. Et alors, la pédagogie, c'est une autre histoire. Ça fait 30 ans que je donne des cours. Pour l'instant, je n'ai pas eu de plainte, donc j'espère que tout va bien. Mais bon.
Et vous étiez parti parce que vous ne trouviez pas la pédagogie ou...
Ah oui, je trouvais pas la pédagogie. Surtout, je trouvais un enseignement qui me semblait tendancieux. Or, pour moi, l'enseignement, c'est enseigner une curiosité. C'est pas enseigner quelque chose de déjà établi. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu peur de venir formater. Et j'essaye de ne pas formater mes élèves. J'essaye, en tout cas, bon, parce que j'essaye au contraire de les ouvrir à toute forme d'art, toute forme de peinture, même des choses que je n'apprécie pas forcément. Mais la question n'est pas là, en fait. La question, c'est de provoquer la curiosité.
Vous écoutiez Laurent Noël dans l'oreille curieuse. Alors vous pouvez retrouver le travail de Laurent Noël sur son site laurent-noël.com et le découvrir à l'atelier puisqu'il ouvre son atelier jusqu'au 20 juin tous les jours sauf les mercredis et jeudis. C'est gratuit, les réservations se font en ligne et c'est une jolie réponse à l'impossibilité d'avoir pu exposer pendant ces 18 derniers mois, on va dire. On écoute 111 de Hot Chip avant de parler nutrition avec José. Still bring
make a smile. Will we grant you the mercy and the love you require? These are the things
Cacahuètes et compagnie.
Bonsoir à tous. Et oui, ce soir, c'est l'interview d'une invitée mystère. Le jingle a dû vous donner un réel indice, sachant que la radio G est une radio locale. Vous avez sans doute dû trouver. Bon, elle a représenté notre département dans la saison 8 du meilleur pâtissier. Je la laisse se présenter.
Bonjour tout le monde. Bonjour José. Donc moi c'est Stéphanie. J'habite Angers. Et effectivement, je suis finaliste de l'émission du meilleur pâtissier saison 8.
On est très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
Moi aussi.
Tu vas un petit peu nous expliquer quelle est cette passion que tu as eue pour la pâtisserie. Comment ça t'est arrivé et puis pourquoi est-ce que t'es arrivé jusqu'au meilleur pâtissier?
Ça marche. En fait, la pâtisserie, c'est pas une vocation. Je peux pas dire que c'est une vocation comme certains se réveillent un matin en se disant voilà, je vais être pâtissier. J'étais très très proche de ma grand-mère maternelle et en fait, elle faisait une tarte aux pommes très très classique, mais que je suis incapable de refaire aujourd'hui avec un appareil versé sur des pommes. Enfin, quelque chose de très simple que j'adorais. Enfin, c'était vraiment mon dessert préféré. Et malheureusement, en 99, j'ai perdu ma grand-mère avec qui j'habitais quasiment. Enfin, j'étais plus souvent chez elle que, enfin, chez mes grands-parents d'ailleurs que chez mes parents, tellement j'étais proche d'elle. Et quand elle est partie, j'ai plus envie de grand chose. J'ai continué mes études. Enfin bon, c'était un peu le vide pour moi. Mmh. Et puis quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, j'ai eu mon premier enfant. Et en fait, j'ai commencé à faire quelques petits gâteaux comme ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai voulu me perfectionner parce qu'en général, quand je fais quelque chose, j'aime bien essayer de bien le faire. Donc c'est pas le tout de se lancer dans quelque chose. J'ai voulu faire de la couture, j'ai jamais réussi. Donc j'ai abandonné parce que c'était pas mon truc malheureusement, alors que ma grand-mère était couturière, donc j'avais envie de continuer ça. C'était ça ou les gâteaux, donc finalement je suis allée dans les gâteaux.
Très bien.
Un jour j'ai eu l'opportunité de racheter l'agence d'assurance dans laquelle j'étais, parce que j'étais assureur depuis une quinzaine d'années.
D'accord.
Et le projet, au moment où ça devait se faire, a été décalé de 2 ans. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. Donc, vu que j'étais très attirée par la pâtisserie, j'ai candidaté à Ferrandi, donc dans une des plus grandes écoles de gastronomie française. Donc, on rentre sur candidature. Il y a, je sais plus, 200 ou 300 candidatures par session pour D'accord. une classe de 24 personnes.
Okay.
Donc, je me suis dit que si j'étais prise, c'était encore un signe du destin. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un entretien à Ferrandi, sans savoir que j'étais prise à ce moment-là. Et en sortant de Ferrandi, le meilleur pâtissier m'a appelé pour me proposer un casting 2 jours après.
Ah oui.
Donc, Donc, et puis maintenant, vous connaissez la fin. Je suis diplômée de Ferrandi et finaliste du meilleur pâtissier.
D'accord. Et alors, du coup, c'est vraiment l'émission qui t'a contactée?
Ouais. En fait, ils ont contacté quelqu'un que je connaissais sur Instagram. Et cette personne se sentait pas de faire le meilleur pâtissier, pas la possibilité, stressée, je sais pas. Enfin voilà, elle s'en sentait pas de le faire. Et donc ils lui ont demandé si quelqu'un autour d'elle pouvait avoir envie. Et donc elle a donné mes coordonnées, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé une petite vidéo et ça s'est arrêté là. Et en fait, quelques semaines après, ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais retenue pour le casting.
Ah ouais, ça s'est fait comme
Mais
ça.
Ils le font beaucoup, hein. Ils repèrent énormément sur les réseaux plutôt que de candidater.
Ah d'accord, moi je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui avait très envie, qui pose une candidature et puis après on attend quoi, ou je sais pas.
Il y en a bien sûr, il y en a une grosse majorité je pense qui fait ça. Mais les casteurs repèrent beaucoup sur les réseaux, quoi. Et moi, ça a été comme ça parce que je m'étais pas dit, je veux faire le meilleur pâtissier absolument. J'aime le challenge, le défi et tout ça. Donc, c'était un truc qui me branchait. Et c'est pour ça que cette personne-là a donné mes coordonnées parce qu'elle connaissait mon goût pour le challenge. Mais je m'étais jamais dit, je vais faire le meilleur pâtissier, quoi. Ça me paraissait inimaginable.
puis vraiment inaccessible, quoi. C'est
ouais complètement. C'était la télé, c'était enfin voilà, pour moi je l'ai regardé quand ça passait à la télé, je regardais les saisons, mais sans jamais me dire qu'un jour je serais à leur place, quoi.
Et ça te faisait pas peur, la technique culinaire au niveau des gâteaux, ce qu'ils font, ce qui m'épate aujourd'hui, moi, de voir ce que des amateurs sont capables de faire.
Pour mon cas personnel, c'est ce qui me plaît, en fait. Et c'est pour ça que je me suis penchée dans la pâtisserie, c'est vraiment ce côté qui me plaît. Et d'ailleurs, enfin, ça s'est vu. Et puis, je l'ai assez dit aussi, mais pendant l'émission, mon épreuve préférée, c'était bien celle de Mercotte. C'est celle où on est tous au point zéro. Et après, c'est tes connaissances qui font la différence. Donc, soit tu maîtrises les techniques et puis, t'arrives à t'en sortir. Soit malheureusement c'est compliqué, tu maîtrises pas les bases, tu maîtrises pas les techniques et tu te foires à l'épreuve de Mercotte, et c'est vraiment ça, quoi.
De toute façon c'est ce qui fait tout, hein, dès qu'on a tous un peu les techniques culinaires, on sait cuisiner, on sait faire la pâtisserie, derrière après on est un peu, comme on dit, les rois du monde. On sait pas un peu tout faire, mais on arrive à faire ce que l'on a envie de faire, quoi.
C'est ça, ouais, exactement.
Je vais pas revenir sur l'aventure du meilleur pâtissier, pas remuer le couteau dans la plaie, même si j'imagine que ça a été quand même super aventure.
Ouais, je vis très très bien ma place de finaliste. C'était déjà une super aventure. Je m'étais mise comme objectif à la base, forcément, d'y aller pour gagner, mais j'avais surtout mon objectif de ne pas sortir la première, parce que j'aurais pas profité de l'aventure, et puis ça m'aurait fait suer d'arriver jusque là pour rester qu'une semaine, mais voilà, après terminer finaliste, c'était déjà génial, enfin voilà.
Oui.
C'était serré, d'après ce que m'ont dit Cyril et Mercotte à la fin. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Il fallait que quelqu'un gagne, et puis c'est pas très grave. Ça n'a pas changé grand chose dans ma vie, quoi. Enfin, en soi, d'être finaliste ou pas, ou d'avoir gagné, je pense que ça n'a pas changé grand chose. Je pense que derrière, on trace notre chemin, notre destinée, et puis voilà, quoi. Alors s'il y avait un livre, après mon livre, ça m'empêchera pas de le sortir quand même. Donc, en soi, la finalité. Voilà, et pas gênante.
Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, justement, cette aventure, en fait, en plus? Alors, est-ce que d'un point de vue technique culinaire, c'est pas grand-chose? Ou alors, si, ça t'a apporté d'autres choses? Et après, est-ce que par rapport à une visibilité au réseau, une image, vas-y, raconte-nous un peu ça.
En fait, ouais, c'est surtout ça, parce que non, la technique pas du tout, enfin ça n'apprend pas grand chose. Alors oui, on fait des mini masterclass avec les chefs où on voit quelques techniques, donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant ça passe très très vite, enfin on le voit. Alors forcément ça il y a du montage derrière, donc ça dure un peu plus longtemps que ce que vous voyez à l'écran, mais en soi, enfin on est debout devant un chef qui fait une prestation, enfin sans notes, sans rien, sans filmer, enfin on n'enregistre pas, donc on regarde, on profite du moment, on partage un moment privilégié avec des chefs, et ça c'était exceptionnel. Ça c'est vraiment ce qui a fait que l'aventure était aussi jolie. Non, j'ai pas appris grand chose au meilleur pâtissier, à part peut-être travailler encore plus vite, parce que forcément en étant chronométré et d'avoir 2 ou 3 heures suivant les épreuves, forcément ça permet de bosser un peu plus rapidement. Mais oui, ça m'a apporté une certaine notoriété quand même, une certaine visibilité que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait le meilleur pâtissier, ça c'est une certitude. Donc de décrocher des contrats avec des grosses marques ou des choses comme ça, je pense que sans le meilleur pâtissier, je les aurais peut-être pas eu aussi facilement ou aussi rapidement. Peut-être que je les aurais eu un jour quand même, hein, parce que après, je fais ce que je fais. Mais bon, oui, ça c'est une certitude que le meilleur pâtissier a donné une mise en avant.
Oui, c'est clair aussi, hein. Quand t'as une exposition comme ça sur une grande chaîne, tout de suite.
Sur 12 semaines en prime time sur la 6, ouais, forcément, les gens te reconnaissent dans la rue à un moment donné, quoi.
Ouais,
donc ça, c'est plutôt super sympa, parce que les gens sont pas du tout les mêmes que sur les réseaux. Enfin, les gens sont gentils dans la vraie vie, en fait. Donc, il n'y a pas de pseudo ou de haters dans la rue, normalement. Enfin, non. J'espère pas. Je touche du bois, mais normalement, non. Donc, non, c'est vraiment agréable, quoi.
Parle-nous aujourd'hui de ton activité. Les auditeurs qui te voient sur les réseaux sociaux voient beaucoup d'activités, on voit des ateliers, tout ça, mais raconte-nous un petit peu comment, de quoi tu vis aujourd'hui, si tu vis de la pâtisserie, raconte-nous un petit peu ça.
Alors aujourd'hui, oui, je vis de la pâtisserie. Ça y est, j'ai définitivement quitté mon métier d'assureur pour me consacrer qu'à la pâtisserie. Et puis, d'où le diplôme aussi chez Ferrandi. C'était important d'être diplômée pour pouvoir me lancer. Ça me donne une certaine assise par rapport au fait de faire des gâteaux. Alors déjà, c'est interdit de vendre des gâteaux sans être diplômée, mais ça c'est une autre affaire. Après, on peut toujours faire des ateliers. Moi, ça me paraît difficilement concevable d'apprendre quelque chose à quelqu'un sans être diplômée et sans être reconnue. Mais bon, après, enfin voilà, il y en a beaucoup qui le font, bah c'est comme ça, quoi. Tant mieux si ça marche.
Il y en a dans tous les métiers.
Mais pour moi, c'était inconcevable.
Il y en a dans tous les métiers, je te rassure.
Mmh. Oh, ouais, non, mais complètement, ça, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'était inconcevable. J'aurais jamais pu faire ça. Donc aujourd'hui, c'est, en fait, je suis multicasquette parce que il y a effectivement les ateliers qui sont en ligne là en ce moment avec cette pandémie là. Maintenant, je ferai des ateliers en réel aussi, un peu partout en France. C'est prévu.
Ah ouais.
Je donne des cours privés aussi. Pour des particuliers et des professionnels aussi, je crée des desserts pour des restaurateurs et puis des pâtissiers, sur un thème précis par exemple. Donc ça, c'est du consulting et c'est ce qui me plaît vraiment, c'est le côté créatif en fait, d'inventer une recette par rapport à une thématique. Ça arrive que des pâtissiers m'appellent en me disant bah voilà, là on va fêter, je sais pas, la Saint-Valentin, crée-moi un dessert autour de la Saint-Valentin avec ces saveurs-là, avec un peut-être ce visuel-là où je te laisse libre cours à ton imagination. Et donc, voilà, il y a ça, par exemple, dans mes activités.
Ah oui, ça, tu dois prendre un pied fou à faire ça, là, à créer complètement. On te donne 3-4 trucs et paf, et derrière, tu crées. Ça doit être génial.
Ah bah c'est ce que j'aime le plus, ça, c'est vraiment cette partie que j'aime, et c'est aussi pour ça, donc la partie technique et la partie créative qui me manquait en fait, enfin la partie technique je l'avais en assurance et donc ça me plaisait beaucoup.
D'accord.
La partie créative pas du tout en fait, donc donc là allier les deux dans la pâtisserie c'est vraiment ce qui me branche quoi, donc je peux passer des heures à essayer de pocher quelque chose pour que ce soit le plus parfait possible quoi. Comme la pâte levée feuilletée qui est super technique, je peux passer des heures à essayer plein de recettes, d'astuces, etc. jusqu'au moment où je vais trouver la recette et puis la façon de faire parfaite. Et c'est pour ça que je me permets de donner des ateliers sur des choses que je connais. Par exemple, le sucre, je le maîtrise pas, le sucre retiré, etc., soufflé et tout, je le maîtrise pas encore, donc je vais me former pour ça. Mais jamais je vais donner des cours sur quelque chose que je connais pas. Donc en général, si j'annonce quelque chose, c'est que voilà, je le maîtrise. Mais ça fait partie de mes casquettes. Ouais. Donc là, j'ai la chance d'être ambassadrice pour une marque de café cette année. Je travaille avec des marques pour des robots, des choses comme ça. Et ça, c'est génial, quoi.
Juste une petite parenthèse, c'est excellent sur tes stories de temps en temps. Il y a des fois, il y a un peu les petits rushs, les loupés. Tu les mets, je trouve ça excellent. Je retiens pas que ça, mais par contre, je trouve ça super. Ça humanise vachement, en fait.
C'est ça, c'est exactement ça. En fait, je trouve ça tellement important de faire voir que, tout n'est pas toujours beau sur Instagram, parfait, lisse et tout, et que le gâteau que je sors, j'ai réussi du premier coup, ou le pochage que je sors. Non, c'est pas ça la vraie vie, quoi. Alors, oui, moi aussi, je rate, et encore heureux d'ailleurs, et ça me donne la force de recommencer derrière.
Eh ben, c'est parfait tout ça.
Ah, si, petit. Je me permets juste une petite chose dans les activités. Si, je fais des commandes aussi pour les angevins. Donc, s'il y a des angevins qui ont envie de découvrir ma pâtisserie, c'est avec grand plaisir. Par exemple, pour un anniversaire, un mariage, un événement, etc., je prends des commandes pour les gâteaux.
Ok. Et tout est en ligne sur ton site internet. Tu peux nous rappeler ton adresse ?
Alors, c'est stéphaniebienvenue.fr. Il est en cours d'évolution et de construction. Là, il vient d'être pris par un webmaster il y a quelques jours.
D'accord.
Donc, les commandes seront dessus après, mais pour l'instant, il faut me contacter en privé, soit sur Facebook, soit sur Instagram, ou par mail d'ailleurs, parce qu'il y a mon lien aussi par mail sur mon Insta pour pouvoir éventuellement me commander un gâteau.
Super. Et alors, là, comme ça, je vais te lancer un petit défi si tu veux bien le relever. Est-ce que tu aurais un petit conseil ? Alors, je ne vais pas te demander de faire une recette comme ça, là. Pour les auditeurs, j'imagine bien qu'on n'a pas de temps. Et juste aussi, je sais pas, un petit conseil technique ou un tout petit truc que les auditeurs pourraient réaliser chez eux, je sais pas, une petite idée.
Alors, je suis reconnue entre guillemets sur Instagram pour une ganache vanille que je fais souvent et où on voit souvent faire. Donc, je vais donner une petite astuce pour cette ganache. Il y a la recette déjà sur mon Instagram, évidemment, avec un petit tuto rapide. Maintenant, pour réussir sa ganache, c'est laissez-la vraiment cristalliser toute une nuit au frigo. Donc, vous la laissez reposer toute une nuit et vous la montez très, très lentement le lendemain pour pouvoir avoir une belle ganache soyeuse. Et l'avantage, c'est qu'avec cette ganache, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites des entremets, des number cakes, des layer cakes, tout ce que vous avez envie de faire avec cette ganache-là, ça marche. Donc, c'est vraiment la recette de base à adopter et à maîtriser. Elle est facile à faire en plus. Donc, elle est vraiment bonne. Donc voilà, si vous pouvez vous régaler à faire ça vous-même, n'hésitez pas.
Ouais. Je vais faire ça. Et merci de la part des auditeurs de Radio G. Et puis, bonne continuation. Puis on n'hésitera pas à visiter, à regarder, à partager.
Avec grand plaisir.
Tous tes réseaux. Et puis, je te souhaite une bonne continuation à toi.
Merci, à toi aussi. Bonne journée.
Génial. J'ai adoré échanger avec Stéphanie Bienvenue. Donc, elle est abordable, sympathique et très dynamique. Les auditeurs, d'ailleurs, qui testeront sa technique avec la ganache, n'hésitez pas à nous faire des retours. C'est intéressant aussi de voir ce que vous faites chez vous. Donc, la prochaine et la dernière chronique de l'année sera au sujet des fruits de saison.
C'est un très beau sujet.
Ouais.
Merci beaucoup José pour cette interview hyper gourmande. J'ai vu ce qu'elle faisait. N'allez pas voir, ça donne atrocement faim. C'est très beau.
C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Mais c'est magnifique. La cuisine, c'est magnifique.
C'est beau. Puis il faut se faire plaisir aussi de temps en temps.
Oui. Bon, bah, on parlera des fruits de saison pour la pâtisserie ou pour d'autres usages dans 2 semaines. Merci à toi José. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission. Le podcast est en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse. Nous, on se retrouve demain, on sera avec le Shabada pour parler des dates qui sont programmées cet été au château du Plessis-Massé et pour parler des prochaines dates qui vont revenir à l'automne. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les émissions, à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la radio. Comme on est un peu en retard... Comme selon toutes nos bonnes habitudes. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Et vous allez retrouver la programmation musicale de Radio G.
to be torn in the middle. It's definitely unsure, unofficial. But silently still be torn, though a little. Timingly is no more but a ripple.
www.radio-g.fr.